corrosif pour le pouvoir d'achat, je vous en parlais. Pendant cette période où la consommation alimentaire augmente, l'État guinéen plafonnera donc les prix. Reste à faire respecter cette nouvelle règle pour éviter que certains commerçants malhonnêtes n'en profitent. On en parle avec Alexis Bédudan, Afrique Éco. Et puis en Tunisie, les défenseurs des droits de l'homme continuent de réclamer la libération de figures de l'opposition, notamment pour avoir soutenu des migrants. Mais avant ce programme, c'est le journal des sports. Le journal des sports avec vous, Florence Valmé. Bonjour Florence.
Bonjour Paul.
On parle football tout d'abord. Alors que le CHAN doit avoir lieu en août prochain, le Gabon dispute un tour de repêchage.
Le Gabon qui retrouve le CHAN 9 ans après. Le 24 janvier 2016, il jouait son dernier match lors de la phase finale de la 4e édition du Rwanda. 2025 marque donc son retour dans la compétition. Les Panthères à prime vont tenter de se qualifier et doivent affronter aujourd'hui à Thiès au Sénégal la Gambie pour le match aller. Un reportage de Fritz Koum.
Depuis le CHAN au Rwanda en 2016, il n'y a plus eu, pour diverses raisons, suspension ou non-inscription d'équipes gabonaises présentes au CHAN. 2025 va marquer le retour du pays dans cette épreuve grâce à l'organisation du tour de repêchage et surtout à la reprise du championnat en novembre dernier, reprise intervenue après 2 ans d'arrêt. Pour une équipe qui a joué son dernier match au CHAN en janvier 2016 et qui n'est pas en activité depuis 9 ans, pour ce retour, l'entraîneur Anissé Yala veut une équipe compétitive.
On va tout donner, on espère être accompagné en temps et en heure pour que cet objectif puisse être atteint. Objectif dont nous sommes conscients maintenant, à chacun de jouer sa partition de façon à ce qu'on ne galvaude pas nos chances de qualification. C'est là une opportunité qui est donnée à tous nos jeunes. C'est une compétition qui se tiendra avant la phase finale de Cannes chez les A. Ils ont tout à gagner à faire de bonnes prestations lors de ces éliminatoires.
Notons que pour aller à la prochaine phase finale, le Gabon doit éliminer 2 équipes. D'abord, la Gambie, qu'il affronte ce vendredi en match aller. S'il passe, il va affronter l'Algérie. Fritz Koum, Libreville, RFI.
Une rencontre qui pourrait être décalée à demain en raison d'une problématique de transport, mais ce n'est pas confirmé pour le moment. Le match retour est prévu le 8 mars à Franceville. L'autre match de repêchage oppose l'Afrique du Sud à l'Égypte. Pour rappel, le prochain CHAN se tiendra du 2 au 30 août prochain dans 3 pays co-organisateurs, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.
Le football toujours et le Stade de Reims qui se déplace à Monaco ce soir pour le compte de la 24e journée de Ligue 1.
Des Rémois qui se sont qualifiés cette semaine pour la demi-finale de la Coupe de France sur la pelouse d'Angers au tir au but et qui affronteront Cannes. Une éclaircie pour les joueurs de Samba Diawara puisqu'ils flirtent avec la ligne rouge en championnat. L'entraîneur du club champenois sait qu'il faut réagir vite pour ne pas devenir relégable. Le Malien d'origine craint son adversaire du soir même si le Stade de Reims n'a pas perdu sur le rocher depuis 8 ans.
Moi, malgré l'historique qui peut paraître positif, parce que c'est vrai que ces 2 dernières saisons, on a été forgé un résultat là-bas. Je pense que c'est le pire moment pour jouer contre Monaco. Tout simplement déjà parce que c'est une très bonne équipe. C'est l'équipe la plus intense de Ligue 1. C'est l'équipe qui est la plus performante sur tout ce qui est CPA, donc sur corner, sur coup franc. Mais pire moment aussi parce qu'ils viennent de perdre contre Lille. Ils viennent de se faire éliminer en Ligue des Champions contre le Benfica. Et je pense qu'en affrontant une équipe qui a joué 3 jours avant, qui est en mauvaise posture, ils vont être ultra prêts et motivés. Donc ça sera à nous de nous mettre au niveau pour pouvoir répondre à cette adversité. Mais c'est clair qu'on s'attend à une rencontre difficile.
Et coup d'envoi de la rencontre à 19h45. TU, enfin un mot du Tour du Rwanda. La 4e étape a été remportée par Joris Delbov.
Merci beaucoup Florence Valmé, c'était le journal des sports.
RFI, toute l'actualité, Paul Lancin-Spinelli.
Dans une minute, le reportage de notre correspondant au Tchad. Mais avant cela, tour des principaux titres de l'actualité internationale de ce 28 février. L'armée israélienne n'a pas réussi à protéger les citoyens israéliens. La division chargée de Gaza a été submergée dès les premières heures de la guerre. Le mea culpa de l'armée israélienne sur l'opération terroriste du Hamas le 7 octobre, alors qu'ont été publiées hier les conclusions d'une enquête interne. Les États-Unis vont relever leur taxe sur les produits chinois dès mardi. Annonce de Donald Trump qui indiquait aussi que les droits de douane promis au Canada et au Mexique entreraient également en vigueur à cette date. Le président américain qui recevait hier le premier ministre britannique Keir Starmer. Échange d'amabilité, remise d'une invitation royale à Donald Trump, mais aucune garantie ferme sur l'Ukraine de la part du président américain.
Mundo. 100.3 FM.
Mendier pour pouvoir étudier, cela fait souvent partie du quotidien des élèves scolarisés dans les écoles coraniques au Tchad. Une manière d'aider ces établissements religieux, faute parfois à de financement. Mais depuis quelques mois, le Secours Islamique France a lancé une initiative baptisée Taoudé. Des partenariats ont donc été noués avec plusieurs écoles, de quoi donner un peu d'air aux établissements et aux enfants. C'est un reportage à Djamena de Victor Moria.
Nous sommes dans le 8e arrondissement de N'Djamena, à l'école Iba Abderrahmane. Ici, environ 80 enfants de tous âges assistent à un cours de français. Les cours séculiers sont une nouveauté depuis quelques mois et l'arrivée du Secours Islamique France dans l'école. Hassan Idriss, le professeur.
Les enfants, même ils sortent, même rapidement ils viennent au cours, comme leur cours les intéresse là. Avant que je me suis venu là, mais c'est, ils sont très contents même.
Moi, ils préfèrent être avec vous qu'être dans la rue.
Être dans la rue, voilà, c'est pas bon. Pour eux, là, ils ont dit que quand on fait l'école, c'est ça, qu'on va apprendre maintenant à lire, compter, parler, écrire. C'est ça, et mon objectif, c'est quoi? Pour que je veux que ces enfants-là vont réussir. L'enfant doit apprendre maintenant à lire, à parler, à compter, à écrire. C'est ça, mon objectif.
Dans cette école, comme d'autres au Tchad, il n'y a pas de financement pour subvenir aux besoins des enfants. Le directeur de l'école coranique, Mahamat Saleh Abdelkrim Mahamat, n'a d'autre choix que de les envoyer dans les rues pour mendier.
Avant, les enfants mendiaient beaucoup, car je ne pouvais pas subvenir à leurs besoins tout seul. Mais maintenant, ils sont pris en charge par le CIF. Notre objectif, c'est qu'ils arrêtent la mendicité. Leurs parents m'ont fait confiance, ils sont d'accord avec l'enseignement des cours séculiers. Ils m'ont confié leurs enfants de tout cœur et à cœur ouvert.
Le programme du CIF, ou Secours Islamique France, se nomme Taoudé, ce qui signifie « porter sur les épaules » en poula, une langue sénégalo-malienne. En plus du financement des professeurs et du matériel scolaire, le CIF prend aussi en charge les frais de santé des enfants, mais investit également dans les infrastructures de l'école. Mansour Sow, coordinateur du projet Taoudé.
Nous agissons sur le cadre de vie, pour qu'il n'y ait pas des enfants trop exposés. Donc c'est pourquoi vous voyez devant nous ce bâtiment qui est en cours de construction, qui va servir de lieu d'apprentissage, mais également de dortoir. On a montré qu'il est possible de protéger ces enfants muhajirines, mais il est possible de les accompagner non seulement vers l'école formelle, mais vers une formation professionnelle.
Présent également au Sénégal, Taoudé assiste près de 700 enfants au Tchad, répartis sur 13 écoles, un projet financé conjointement avec l'Agence française de développement. Victor Morian, N'Djamena, RFI.
Le reportage Afrique de la rédaction à retrouver à tout moment sur RFI.fr.
L'AB 89.9 FM.
La viande, la farine ou encore le riz ne doivent pas assécher le porte-monnaie des Guinéens. C'est avec cet objectif affiché que l'État a mis en place un plafonnement des prix d'une dizaine de produits alimentaires subventionnés pendant le temps du Ramadan et du mois de Carême, une période où la consommation a plutôt tendance à augmenter. Il reste maintenant à faire respecter ces nouveaux tarifs et pour ça, les douanes guinéennes comptent renforcer aussi leur contrôle sur les marchés. Un dossier d'Alexis Bédu pour Afrique Économie.
Sac de riz blanc, 290 000 francs guinéens, 50 kilos de farine à 350 000 et carton de poulet entier à 210 000 francs. Dans les marchés de Conakry, les prix de certains produits vont baisser jusqu'à la fin du mois de juin grâce à un effort financier de l'État, rappelle le directeur du commerce intérieur et de la concurrence, Mohamed Traoré.
L'État perd jusqu'à 67 millions de dollars parce que il renonce à ses droits sur effectivement l'importation de ces denrées. Donc aujourd'hui, en tant que directeur national du commerce, nous voulons nous rassurer que ces efforts de l'État se répercutent sur les prix pratiqués sur le marché pour que le client final puisse effectivement être soulagé.
Problème, ces prix plafonnés ne sont pas toujours respectés par certains commerçants qui profitent de la baisse chez les grossistes sans la répercuter sur leurs étals aux dépens des consommateurs. Selon le colonel Cheikh Gadiri Konté, directeur général par intérim des douanes, les contrôles seront renforcés.
Il y a encore des personnes de mauvaise volonté, des personnes qui, ma foi, prennent ces produits subventionnés, les envoient soit en dehors de la Guinée, où ils font des spéculations sur ces produits sur le marché intérieur. Ces personnes de mauvaise foi, nous allons partir en guerre contre eux. J'irai faire une note de service pour envoyer à tous les services douaniers provinciaux pour qu'ils redoublent d'ardeur qu'il redouble de vigilance afin que ces produits-là partent à la destination et aux destinataires privilégiés, le marché de la Guinée et surtout les consommateurs guinéens.
Un plafonnement qui n'est pas le même que vous habitiez à Conakry ou dans le reste du pays où les prix de vente varient selon le transport. Injuste selon Mbani Sidibé, président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée, qui n'est pas satisfait du protocole d'accord.
Il y a des prix discriminatoires. Il y a le prix du Grand Conakry et le prix de l'intérieur. Quand l'État renonce, il devait faire de telle sorte que le prix soit uniforme sur tout l'état du territoire national. Tous les consommateurs guinéens devaient bénéficier du même prix. Si déjà les consommateurs de Conakry sont supérieurs aux consommateurs de l'intérieur, ça veut dire que c'est grave.
Pour éviter un trop grand décalage entre les différentes localités, l'association de consommateurs demande à l'État de retravailler sur les marges de distribution et pas seulement sur celles des recettes douanières. Alexis Bédu, de retour de Conakry, RFI.
C'était la chronique Afrique Économie. En Tunisie, la répression touche aussi les protecteurs des droits des migrants. Plusieurs dizaines de figures de l'opposition et de la société civile sont toujours emprisonnées, notamment pour ce motif. Les défenseurs des droits de l'homme en appellent désormais au président Kais Saied, mais aussi à la première ministre italienne Giorgia Meloni. Ramdan Ben Amor est le porte-parole du FTDES, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Christophe Boisbouvier lui a d'abord demandé si pour lui, la libération la semaine dernière de 4 prisonniers politiques était une bonne nouvelle.
Bon, bien sûr, toujours les libérations sont des bonnes nouvelles. La liberté est une chose qui nous satisfait, bien sûr, surtout pour des personnes qui sont détenues depuis des mois. Mais ce n'est pas un signe d'une ouverture de la part de la présidence de la République en Tunisie. Donc, ce sont des actions qui ont anticipé les réunions du Conseil des droits de l'homme, où la Tunisie sera aussi convoquée. Et donc, c'est une action qui a anticipé un peu les critiques.
Alors il y a ces 4 figures tunisiennes qui viennent d'être libérées, mais combien d'autres restent en prison?
Tout d'abord, il y a des dizaines de décideurs politiques qui sont encore en prison dans l'affaire de Complou. Et on a aussi des dizaines de gens qui ont travaillé dans des ONG, surtout liés à la migration, qui sont encore en prison. Donc ils ont dépassé aujourd'hui le 300 jours. Malheureusement, sur le plan international, pour nous, on a déjà un Saint-Denis sur la position de l'Union européenne. Parce qu'au moment où Kais Saied fait la répression contre les migrants et la société civile, on a vu beaucoup de dirigeants européens qui viennent en Tunisie, qui saluent la Tunisie des efforts menés pour la lutte contre la migration non réglementaire. Donc il y a une manière de complice aussi de la part de beaucoup de dirigeants européens.
Et quand vous parlez de la complicité de certains dirigeants européens, à qui pensez-vous?
Bon, bien sûr, toujours on pense donc à Giorgia Meloni qui a créé cette alliance. Et donc on a vu ce qu'a fait Giorgia Meloni, ce qu'a fait le ministère des Affaires étrangères italien, qui est maintenant le porte-parole de Kais Saied dans les instances, pas seulement européennes, mais les instances internationales.
Ramdan Ben Amor, joint par Christophe Boisbouvier, entretien complet avec notre grand invité Afrique, à retrouver dans une heure sur RFI. Et comme tous les vendredis, c'est l'heure de retrouver la chronique de Charlotte Tamac. Charlotte, quand il y a le feu, tout le monde peut être sollicité comme sapeur-pompier pour tenter de l'éteindre.
Oui, nous connaissons tous les sapeurs-pompiers, ces soldats du feu qui interviennent en cas d'incendie ou de tout autre danger. Mais il arrive que, même sans être du métier, on le devienne de façon involontaire. Non pas en prêtant main forte en cas d'incendie, mais parce qu'un tiers vous appelle en sapeur-pompier.
Tu m'as giflé, non? Attends, je pars appeler mon grand frère.
Lorsque le sapeur-pompier intervient, ce n'est pas toujours pour éteindre le feu, mais parfois pour rajouter de l'huile sur le feu.
C'est toi qui gifles mon petit frère. Le voici, gifle-le encore, comme tu crois que tu es fort. Si tu es garçon, tente même seulement de le frôler.
Mais on le sait, à force de jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler.
Tu pars provoquer, on te frappe. Tu viens m'appeler, il me tape aussi. Au lieu d'entrer dans la bagarre, tu ris. Tu veux que moi-même je te tape aussi?
Le sapeur-pompier intervient pour éteindre un feu qui a été allumé par quelqu'un qui a pourtant été prévenu du danger des flammes.
Je dis, est-ce que tu sais que le gars avec qui tu traites là, c'est un malhonnête?
Ah, tu maîtrises la situation, hein? Ok. Mako, le type avec qui tu sors là est marié avec femme et enfant, hein? Ah, son mari est son mari quand ils sont chez eux, hein? Ok. Lorsque l'étincelle prend feu, vous voilà sollicité pour jouer les soldats du feu.
Man, n'est-ce pas le type là m'a frappé 300 000? Pardon, introduis-moi chez ton grand frère commissaire de police. Mako, c'est comment avec les blessures partout et les habits déchirés? Les bandits t'ont agressé? Mako, quel bandit? N'est-ce pas, c'est la femme du type là? Elle m'agresse que, oh, j'ai volé son mari. Comme si c'est moi qui l'ai appelé me draguer. Mako, pardon, va alors la supplier qu'elle te remette mes chaussures qu'elle a confisquées. Parce qu'elle dit que c'est son mari qui a acheté ça.
Lorsqu'un incendie est signalé, le premier réflexe est de composer le numéro d'urgence des pompiers. Et souvent, ce numéro commence par l'indicatif du pays juste avant votre numéro, qui devient un numéro d'urgence encore plus efficace que le 18. Man, devine qui m'appelle. Mon grand frère, je ne comprends pas les gens de Mbeng. Je suis là. Il traite directement avec des gens ici au pays. Maintenant qu'on l'a frappé, il m'envoie faire les problèmes. Jusqu'à, il dit que même s'il faut combien, il envoie. Donc, il a même souvent l'argent. Hein. Le sapeur-pompier lui-même est souvent menacé par l'ampleur des flammes. Hein. Mon ami, j'ai traité quoi avec toi? Dis donc, amène-moi où tu veux. Jouer le sapeur-pompier, c'est faire intrusion dans un feu qui ne vous regarde pas. À vendredi.
À vendredi prochain, Charlotte, c'est la fin de cette édition d'Afrique Matin. Olivier Roux était à la réalisation, Pierre Pinto à la rédaction en chef, toute l'information de Radio France Internationale, à nos analyses, entretiens et reportages à retrouver quand vous le voulez sur notre site internet rfi.fr et notre application RFI. Dans un peu plus d'une minute, vous avez rendez-vous avec Julien Coquel-Rouhem pour le début d'RFI Matin.
Pourquoi RFI dit ça ? Jean-François Cadet.
Comment RFI couvre l'actualité au Burkina Faso, où nous n'avons plus de correspondants, et singulièrement cette semaine, la 29e édition du FESPACO, le Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. Pourquoi parle-t-on moins de sport féminin que de sport masculin sur l'antenne ? Nous répondons à vos interpellations et à vos questions.
Écoutez Pourquoi RFI dit ça, tout à l'heure à 19h41, sur RFI. Appel sur l'actualité est à Cotonou. Juan Gomez.
C'est une date historique. Le 28 février 1990 prenait fin la Conférence nationale des forces vives du Bénin, un événement qui a permis au pays de jeter les bases de la démocratie. 35 ans après, les Béninois sont-ils fiers du chemin parcouru ? On en parle avec le public de Cotonou et nos invités.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. Les dessous de l'infox, Sophie Malibaud.
Depuis le déclenchement de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, un discours anti-néocolonialiste ressurgit, de façon sélective, dans la bouche des propagandistes et des plus hauts responsables russes. Avec le chercheur Maxime Audinet de l'IRSEM, nous évoquons la façon dont ce récit se propage à des fins stratégiques.
Les dessous de l'infox, avec Sophie Malibaud, tout à l'heure à partir de 17h30 TU sur RFI.